VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 8 novembre 2017. John Linden en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, Cameroun, nouvelle attaque dans les régions anglophones, deux gendarmes tués près de Bamenda.
Ce problème ne peut trouver de solution que dans le cadre d'un dialogue ouvert et le processus est déjà en marche.
Issa Tchiroma Bakari, porte-parole du gouvernement. En Mauritanie, le nouveau procès à l'appel du blogueur Mohamed Cheikh Ould Mohamed s'est ouvert à Ouagadougou. Donald Trump est arrivé à Pékin, étape délicate de sa tournée médiatique. Et puis, nous retrouverons Nicolas Pilot pour les sports et Kiabadou pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Au Cameroun, deux gendarmes ont été tués à Bamenda dans la zone anglophone cette nuit. Les autorités ont ordonné l'envoi des forces spéciales et la traque des présumés assassins. C'est le troisième gendarme abattu dans le nord-ouest du Cameroun depuis le début de la semaine. De Yaoundé, les précisions de notre correspondant Emmanuel Juntap.
Selon les sources de sécurité, le premier gendarme a été grièvement blessé à la tête par des individus cagoulés. Il rendra l'âme quelques heures après. La scène s'est déroulée sur la route de l'aéroport de Bamenda, à l'entrée de la ville, non loin de la localité de Bafout. Le gendarme en question était un maréchal de logis chef. Quant au deuxième gendarme assassiné, il a été surpris en faction devant un établissement scolaire par des individus cagoulés. Le lieu du crime est cette fois-ci la localité de Bayélé, dans la banlieue de Bamenda. L'infortuné était un élève gendarme en mission dans le nord-ouest en raison de la crise anglophone. Ces deux assassinats ont mobilisé le déploiement des forces de défense mercredi au lieu dit où les coups de feu ont été retentis. À l'issue d'une réunion de crise tenue mercredi à Bamenda, il a été décidé le renfort des troupes et la traque des présumés assassins. Aux dernières nouvelles, l'attaque a été attribuée aux partisans d'un groupe d'activistes lourdement armés, précise un responsable militaire de la région du Nord-Ouest. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
La guerre peut-elle être la solution du problème anglophone? La réponse est du ministre Issa Tchiroma Bakari, porte-parole du gouvernement.
La solution est en passe d'être trouvée parce que ce problème ne peut trouver de solution que dans le cadre d'un dialogue ouvert qui est à l'écoute des doléances de toutes les attentes de nos populations de cette région. Il me souvient que le président de la République a mis en place une commission en charge de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. La solution donc passe par la maîtrise, la connaissance de toute la problématique et puis assis autour d'une table que les uns et les autres proposent des solutions faisables, réalisables par le gouvernement. Et le processus est déjà en marche.
Au Togo, des milliers de manifestants demandant le départ du président Faure Gnassingbé sont à nouveau descendus dans les rues de Lomé. L'opposition, qui a prévu 3 jours de manifestation, a par ailleurs dénoncé une répression sauvage qui a fait une vingtaine de blessés hier dans le nord du pays. En République démocratique du Congo, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, a dénoncé une avalanche de pression extérieure sur le processus électoral dicté selon lui par la convoitise que suscitent à l'étranger les immenses ressources naturelles de son pays. Il a salué le calendrier publié dimanche par la commission électorale qui prévoit les élections pour le 23 décembre. Les Nations Unies, les États-Unis et la France ont pris note de ce calendrier rejeté par l'opposition qui demande le départ du président Joseph Kabila. Toujours en RDC, la MONUSCO, la mission de l'ONU, a annoncé le décès d'un troisième casque bleu blessé dans l'attaque d'une de ses bases près de Beni par des présumés rebelles ougandais musulmans. La MONUSCO a quelque 18 000 soldats et policiers déployés en RDC depuis 1999. Ouverture dans le nord de la Mauritanie du nouveau procès en appel d'un blogueur pour blasphème. La Cour suprême avait cassé sa condamnation à mort, mais plusieurs manifestants demandent qu'il soit exécuté. Abdourahman Dia.
Un public nombreux a pris place dans la salle d'audience de la Cour d'appel à Ouagadougou sous haute surveillance policière. Un imposant dispositif sécuritaire filtrait l'accès à la salle. Les caméras, téléphones et autres ordinateurs portables n'étaient pas autorisés. Le prévenu Mohamed Cheikh Ould Mohamed a reconnu devant les juges avoir décelé dans son article des erreurs qu'il avait immédiatement corrigées dans un autre article. Il a également exprimé tout son repentir et ses excuses et assurer la cour de sa foi en Allah et en son prophète. Oldou Mohamed a été arrêté en janvier 2014 pour un article sur Internet jugé blasphématoire envers le prophète de l'islam. Il dénonçait l'usage de la religion par certains à des fins discriminatoires. Il est rejugé par une cour d'appel composée de nouveaux membres sur décision de la Cour suprême. Les manifestants se sont rassemblés à Ouagadougou et dans la capitale Nouakchott pour demander son exécution. Les ONG de défense des droits humains exigent sa libération.
Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda, a revendiqué une série d'attaques au Mali, attribuées par l'ONU à des êtres sans foi ni loi. 10 personnes, dont 9 civils, ont péri lundi dans 2 attaques dans le nord et le centre du Mali, où le premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a dû reporter une visite après l'explosion d'une mine au passage d'un véhicule d'escorte. Au Nigeria, au moins 11 commerçants peuls ont été tués hier dans l'état du Plateau. Ils revenaient d'un marché dans la région rurale de Rion lorsqu'ils sont tombés dans une embuscade tendue par des assaillants non identifiés, selon le porte-parole de la police locale qui affirme avoir ouvert une enquête. L'état du Plateau dans le centre du pays a souvent été le théâtre de violences entre chrétiens et musulmans. Le parti du candidat à la présidentielle au Liberia et ex-star du football, George Weah, hausse le ton 2 jours après la suspension du processus électoral, réclamant sa relance rapide et la tenue du second tour, dont la date n'est pas encore fixée. Le second tour de la présidentielle aurait dû opposer hier mardi George Weah au vice-président sortant Joseph Boakai, respectivement premier et deuxième au premier tour du 10 octobre. L'ancien vice-président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a annoncé avoir quitté son pays en raison de menaces incessantes qui pesaient sur lui et a promis de continuer le combat contre les dérives du président Robert Mugabe et de son épouse Grace. « Je ne suis plus dans le pays et je suis sain et sauf », a déclaré M. Mnangagwa dans un communiqué publié 2 jours après son éviction. En Tanzanie, au moins 5 élèves âgés de 7 à 9 ans ont été tués et une vingtaine blessés par l'explosion d'une grenade avec laquelle ils jouaient dans la province de Kagera, dans le nord de la Tanzanie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump est arrivé aujourd'hui à Pékin après sa visite en Corée du Sud. Cette étape est la plus délicate de sa tournée asiatique. Monsieur Trump tente de forger un vaste front uni contre Pyongyang. Le point avec Dilly Dico.
Le président Donald Trump est arrivé mercredi à Pékin avec son épouse. Ils ont alors pris la direction de la cité interdite pour une visite privée en compagnie de son homologue Xi Jinping. Il a eu droit à un opéra traditionnel et un accueil fastueux pour celui qui, durant sa campagne, accusait la Chine de voler des millions d'emplois aux États-Unis. La journée de jeudi sera moins agréable car Donald Trump doit discuter avec Xi Jinping de sujets délicats dont la Corée du Nord. La Chine étant le principal allié de Pyongyang, la rencontre des deux dirigeants risque d'être crispée. Washington demande à Pékin de cesser tout échange commercial avec la Corée du Nord. L'autre gros dossier, les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Les deux puissances ont signé des accords de 9 milliards de dollars, mais le président américain a évoqué de graves déséquilibres, notamment l'énorme déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Donald Trump restera à Pékin jusqu'à vendredi matin, puis il se rendra au Vietnam et aux Philippines.
D'ailleurs, c'est le premier anniversaire de son élection aux États-Unis où se sont tenues hier des élections locales partielles. Les démocrates relégués dans l'opposition depuis la défaite d'Hillary Clinton ont remporté les sièges de gouverneur de Virginie et du New Jersey, ainsi que plusieurs sièges locaux et beaucoup de maires démocrates ont été réélus, comme Bill de Blasio, le maire de New York. L'administration américaine a annoncé aujourd'hui des restrictions aux échanges avec Cuba pour tempérer le rapprochement lancé par Barack Obama. Ces mesures confirment une application plus stricte des restrictions des autorisations pour les voyages culturels vers l'île communiste qui doivent désormais se faire sous les auspices d'une organisation basée aux États-Unis. Le premier ministre belge Charles Michel a estimé aujourd'hui qu'il n'y avait pas de crise politique en Belgique consécutive à la crise catalane, malgré les déclarations de ses ministres nationalistes flamands soutenant les dirigeants indépendantistes catalans. « Il y a une crise politique en Espagne et pas en Belgique », a déclaré Charles Michel. Le Kremlin juge très probable une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump à marge du sommet de la PEC au Vietnam ce week-end. Poutine et Trump participent à ce sommet et se trouveront dans la même pièce. C'est pourquoi il est tout à fait logique qu'ils se rencontrent, selon le conseiller diplomatique du Kremlin. L'Assemblée nationale française a décidé de lever l'immunité parlementaire de Marine Le Pen, députée du parti d'extrême droite, qui avait diffusé sur Twitter des photos d'exactions du groupe État islamique. Cette levée d'immunité doit permettre que l'élu réponde aux convocations du juge. Le bureau de l'Assemblée ne s'est pas prononcé sur le fond du dossier. Les récentes arrestations la semaine dernière en Arabie Saoudite des dizaines de personnalités pour corruption pourraient en réalité faire partie d'une lutte pour le pouvoir dans le royaume, a estimé aujourd'hui Human Rights Watch. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eti Abadou.
Le Millennium Challenge Corporation des États-Unis et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire ont signé mardi un accord sur un montant de plus de 524 millions de dollars. Il doit stimuler la croissance, réduire la pauvreté en Côte d'Ivoire et permettre des nouvelles opportunités d'affaires. Le président Alassane Ouattara et Jonathan Nash, qui assurent l'intérim à la tête du MCC, ont procédé hier la cérémonie de signature au département d'État à Washington. Déterminé à concurrencer le géant américain Apple, le fabricant chinois Tecno propose à Abidjan son tout dernier smartphone, nommé Phantom 8, doté d'une caméra professionnelle et son prix est de 220 000 francs CFA. Sa mise en vente sur le marché africain est prévue samedi. L'Algérie construit le plus long tunnel ferroviaire d'Afrique du Nord, long de 7,3 km chacun. Le tunnel d'El Cantas permettra de réduire de près de moitié la durée du trajet en train entre Alger et Oran. Aujourd'hui, il faut compter en moyenne 4h30 pour relier la capitale à la plus grande ville de l'ouest algérien, mais la durée de ce trajet sera bientôt divisée par deux. Édouard Akakpolado est en attente de sponsors. Il avait à peine 18 ans lorsqu'il fabriquait des petits véhicules électriques. Il a acquis des compétences en électricité. Âgé de 26 ans aujourd'hui, ce jeune Togolais est l'auteur de plusieurs inventions dans le domaine de l'agroalimentaire, comme un broyeur de noix, un appareil pour piler du manioc séché. Ces pièces sont commandées par les foires et les foyers togolais en attendant d'avoir l'appui financier pour exporter.
Nicolas Pinault est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Coupe du Monde 2018, il reste quelques billets pour la Russie, Nicolas.
Et oui, il reste 9 billets en jeu pour ce Mondial 2018, 3 à distribuer en Afrique puisque le Nigeria et l'Égypte sont déjà qualifiés. La Tunisie est toute proche de rejoindre la Russie, leader du groupe A avec 3 points d'avance sur la RDC. Les Aigles de Carthage n'ont besoin que d'un match nul face aux voisins libyens. Une défaite peut même suffire si les Léopards de la RDC échouaient à battre la Guinée. Le suspense est beaucoup plus important dans le groupe C où la Côte d'Ivoire et le Maroc vont s'affronter dans une finale à Abidjan. Le Sénégal, premier du groupe D, avec encore un match en retard à jouer, peut se qualifier dès le premier de ces deux matchs contre l'Afrique du Sud vendredi en cas de victoire.
En Europe, l'Italie et la Croatie en danger.
La Croatie a été relativement épargnée en tirant la Grèce de Kostas Mitroglou. L'Italie a, elle, hérité d'un adversaire rugueux avec la Suède. Même sans Zlatan Ibrahimovic, les Suédois ont montré qu'il fallait compter sur eux. Dans les autres rencontres, la République d'Irlande et l'Irlande du Nord vont tenter de créer la surprise respectivement face au Danemark et la Suisse.
Messi, lui, espère éviter l'Espagne au Mondial.
Et oui, le capitaine de l'Argentine, Lionel Messi, espère éviter l'Espagne au premier tour de la Coupe du Monde l'été prochain. Une compétition où, selon lui, le Brésil, l'Allemagne et la France comptent parmi les favoris et principaux rivaux de l'Argentine.
Boateng, forfait avec l'Allemagne.
Le défenseur central allemand, Jérôme Boateng, qui souffre des problèmes musculaires, sera ménagé vendredi et ne jouera pas contre l'Angleterre en amical à Wembley.
Et puis NBA, championnat de basket nord-américain.
Avec 40 points et 9 rebonds, Giannis Antetokounmpo, Milwaukee a bien cru infliger à Cleveland une deuxième défaite d'affilée hier en NBA. Mais les Cavaliers se sont imposés 124 à 119. À Washington, les Wizards se sont inclinés contre Dallas 99 à 113.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, présenté par John Lyndon. Mise en nom de Joselle Morissin, place à présent au dossier du jour et on commence par les États-Unis. Il y a un an, le républicain Donald Trump battait à la surprise générale la démocrate Hillary Clinton. Il était ainsi élu 45e président des États-Unis. Un an après, quel bilan, quelle perspective? Le point avec Dilly Dico.
Il y a un an, Donald Trump a créé la stupéfaction en gagnant l'élection présidentielle, une victoire à laquelle, semble-t-il, peu de gens s'attendaient.
Je m'adresse à tous les républicains, aux démocrates et aux indépendants américains. Il est temps pour nous de nous rassembler pour former un peuple uni.
Lors de son investiture, Donald Trump s'est engagé auprès de la classe ouvrière à laquelle il doit largement sa victoire.
Les politiques n'ont cessé de s'enrichir pendant que le chômage augmentait et les usines fermaient. Cette destruction de l'Amérique prend fin ici, dès cet instant.
Selon l'analyste John Fiery, l'élection de Donald Trump était synonyme de changement sans précédent dans la politique américaine.
Désormais, la base électorale républicaine est constituée de personnes ayant voté pour Trump. Cet électorat considère une attaque sur Trump comme une agression personnelle.
La présidence de Donald Trump a commencé par des moments difficiles, de nombreuses manifestations et une controverse sur le nombre de personnes venues assister à sa prestation de serment. Sean Spicer, ancien porte-parole de la Maison Blanche au sujet de cette estimation.
This was the largest audience to ever witness an inauguration, period.
Il s'agit de la plus grande foule venue assister à une investiture, point barre, autant par le nombre d'individus sur place à Washington que par l'audience internationale.
Le président a toutefois connu un succès important dès le début de son mandat avec la nomination du juge Neil Gorsuch à la Cour suprême. Il a aussi reçu des éloges pour sa gestion de l'économie marquée par une expansion du marché boursier et ses victoires militaires contre le groupe État islamique. Mais Donald Trump et ses alliés ont aussi essuyé des revers avec le rejet par le Sénat de la nouvelle loi sur la santé proposée par les Républicains. Cet échec a considérablement retardé le programme du président, Alan Lichman de la American University.
Aucun parti contrôlant à la fois le Congrès et la Maison-Blanche n'a eu des résultats aussi mitigés que l'administration Trump et les Républicains.
Cependant, les récentes inculpations judiciaires dans l'enquête sur l'ingérence russe menacent de ternir la Maison-Blanche et ravivent les inquiétudes sur les orientations futures du président. Il va sans dire que l'élection de Donald Trump constitue un tournant dans la politique américaine, mais son impact sur les États-Unis et le monde reste à ce jour une incertitude.
Un an donc après l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis, que pensent les Américains de l'actuel locataire de la Maison-Blanche? Arzuma Compaoré est descendu dans les rues de la capitale américaine. Voici quelques réactions.
Je ne suis pas sûr. C'est difficile de comprendre certaines politiques. C'est difficile de savoir si ce que nous faisons est la meilleure chose à faire en termes d'administration. On a l'impression de vivre dans une oligarchie. Peut-être que nous devrions effectuer une réforme financière avant tout. Ces jours-ci, c'est l'argent qui semble gouverner le pays, appauvrissant presque toute la classe moyenne. Le pays doit s'unir et résister à l'oligarchie.
Je ne vote pas, je ne suis pas la politique. C'est tous des corrompus.
Je ne suis pas sûr qu'il ait accompli grand-chose. Il aime dire qu'il l'a fait, mais je ne l'ai pas encore vu. Je n'ai pas voté pour lui. Je compare seulement ce qu'il a dit qu'il ferait à ce qu'il a fait.
Tout le monde reproche quelque chose au président. Moi, je n'ai aucun manque de respect envers lui. Mais j'ai des opinions différentes des siennes. Mais hormis cela, la politique, ça ne m'intéresse pas. Je vis juste ma vie. Pour moi, tout cela n'est que propagande.
Je ne suis pas du tout contente. Il ne sait pas gouverner. Il dit des choses folles. Il a causé beaucoup de tensions dans le pays avec la division raciale et les divisions en termes de classe sociale. Beaucoup de gens sont maintenant désagréables envers les autres et cela encourage les brimades dans les écoles. C'est très révoltant.
Cela a trop duré. il est temps d'y mettre fin et il devrait quitter le pouvoir volontairement.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur le premier anniversaire de l'élection surprise de Donald Trump à la Maison Blanche. Un an plus tard, quel bilan pour le 45e président des États-Unis? Comment évolue le pays dans les domaines politiques, économiques et sociaux? Sur le plan international, qu'a-t-il accompli jusqu'ici et au cours de cette première année? A-t-il pu articuler une vraie politique africaine? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Congo-Brazzaville, un navire de Greenpeace a été sommé hier dans la soirée de quitter le port de Pointe-Noire où il tentait d'accoster depuis lundi matin. Les autorités ont affirmé ne pas avoir été informées de cette mission qui mène une campagne de sensibilisation sur la préservation des forêts du bassin du Congo. Reportage à Pointe-Noire de Ngwela Ngusu.
Les membres de Greenpeace n'ont pas pu avoir l'autorisation d'accoster à Pointe-Noire où ils devraient mener les activités de sensibilisation sur la gouvernance forestière. Ce n'est que tard, vers 20h temps universel, que les 22 activistes qui se trouvaient à bord ont pu sortir du bateau. Le commandant et les 9 autres membres de l'équipage n'y ont pas été autorisés. Leur bateau Esperancia a même été sommé de quitter les zones congolaises. Irène Wabiwa, responsable de la campagne forêt de Greenpeace, parle de déception.
Et donc, nous avons eu à recevoir plusieurs raisons. Et donc, il est encore trop tôt de pouvoir dire est-ce que c'est une question politique ou c'est une question administrative ou totalement technique. L'appui du DDST qui nous a aidé à pouvoir libérer au moins nos collègues qui étaient à bord et qui devaient rentrer chez eux. Mais les membres de l'équipage sont rentrés avec le bateau et donc c'est la fin pour la tournée en ce qui concerne le bassin du Congo. Mais c'est avec un grand regret que nous terminons cette tournée.
Pendant 2 jours, la société civile locale qui avait préparé l'arrivée de ce bateau n'a pas pu trouver un accord avec les autorités. Ces dernières disent ne pas avoir été informées de cette activité, ce que dément Rock Eloge Nzobo, membre de la plateforme pour la gestion durable des forêts, qui indique que les courriers ont bel et bien été déposés dans l'administration.
Ce n'était pas nécessaire de gâcher un tel événement pour des prétextes qui ne sont pas objectifs. Nous, en tant que société civile, nous avons été heureux pour la première fois de rencontrer Greenpeace, de mener cette activité qui était liée à la sensibilisation pour la préservation des forêts du bassin du Congo, et en particulier celle de la République du Congo.
Une dizaine de membres des communautés autochtones de la Lekoumou, à environ 250 km de Pointe-Noire, avaient fait le déplacement pour suivre les activités de Greenpeace. Ils repartiront sans avoir appris sur les techniques de protection des forêts. Jean-Denis Toutungamillé, membre de cette délégation.
Le but que nous avons voulu atteindre n'est pas atteint. Et comme tel, il y a l'insatisfaction, ce qui n'était pas attendu.
À travers cette tournée, Greenpeace voulait sensibiliser les populations de RDC, du Cameroun et du Congo-Brazzaville sur la gouvernance forestière. Mais la dernière étape n'a pu avoir lieu. De Pointe-Noire, Ngwela Ngusu, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Sénégal, comme chaque année depuis plus d'un siècle, est célébré l'Omagal de Touba. L'Omagal est la commémoration du départ en exil du guide religieux et combattant pacifique contre la colonisation Cheikh Amadou Bamba Mbake. L'Omagal, qui accueille en moyenne 2 à 3 millions de pèlerins chaque année, est un moment de dévotion et de partage. Il a atteint une dimension exceptionnelle qui en a fait l'un des rassemblements religieux les plus importants au monde. Reportage à Dakar de Sedina Abagay.
La ferveur autour du Magal repose essentiellement sur une croyance profonde des disciples envers le fondateur du mouridisme, comme en témoignent ces propos de Mamoudou Mbaye.
Serigne a accepté de souffrir pour la rédemption des êtres humains. Donc pour le mouride, le Magal, c'est la consécration d'une œuvre sans équivalent depuis que l'humanité existe. Il n'y a pas de voie plus sûre que celle tracée par Serigne Touba. Donc la félicité, on ne peut l'obtenir que par l'intercession. Et Serigne Touba est capable d'intercéder auprès du bon Dieu pour qu'on nous pardonne. Nous ne pouvons pas l'oublier, ni ici, ni aujourd'hui, ni demain.
Lors du Magal, les disciples donnent le adieu au marabout, un acte d'allégeance hautement recommandé dans la tradition mouride. Depuis 20 ans, Malik Dien perpétue cela. Cette année, son cadeau d'allégeance est composé de plus de 500 bœufs accompagnés de plusieurs millions de francs CFA. À Touba, les pèlerins sont accueillis, logés et nourris gratuitement par les habitants. Ibra Dien indique que pour eux, l'essentiel est de recevoir chaque année davantage de fidèles.
Pas chez nous, habitants et natifs de Touba, ce qui est important, c'est de voir le nombre de pèlerins accueillis augmente. C'est l'essentiel chez nous. On fera tout pour augmenter. Cette fois-ci, certains même ont allé à contribuer sur le ticket du transport pour pouvoir accueillir le maximum de pèlerins à Touba.
L'activité autour du Magal booste plusieurs secteurs de l'économie parmi lesquels le transport. Le petit train de banlieue réalise d'importantes plus-values lors du Magal en offrant aux pèlerins une alternative face aux nombreux accidents de la route.
Elhaj Diouf est le responsable d'exploitation de la société ferroviaire.
Le Magal nous apporte beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de confiance parce qu'on a assuré la sécurité en termes du matériel. Sur le plan sécurité publique aussi, on a renforcé le dispositif, donc sécuritaire en augmentant le nombre de gendarmes pour assurer la sécurité des pèlerins.
Fête, férié, chemin est payé depuis 2013, le Magal est en perpétuelle croissance. Le sociologue sénégalais Djibi Diakhaté estime que cette commémoration n'a pas encore atteint son apogée.
On parle aujourd'hui de plus en plus de tourisme religieux. Le Magal est en train d'en arriver à ce niveau. L'idée que vous avez beaucoup de pèlerins qui se rendent à Touba, pas parce qu'ils sont mourides ou qu'ils ont des marabouts mourides, ils y vont pour découvrir.
Célébré depuis plus d'un siècle, le Grand Magal de Touba est un événement religieux majeur au Sénégal. Il est aujourd'hui célébré dans plusieurs pays du monde par les disciples mourides de la diaspora. À Touba, Seydina Abba Gueye pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace out!
La fin de cette édition du Monde Aujourd'hui est mise à nom de par Joselle Morissin. Vasco Volarich était à la console. Présentation John Lyndon. Merci à Raïssa Girondin qui nous a rendu visite et à toute la rédaction pour sa collaboration. Quant à vous, chers auditeurs, merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. Bonsoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM, Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.